Charles Maxence, votre avis simplement sur le fait que deux des conférenciers aient été menacés?
Est-ce que nous sommes encore dans une société démocratique? Je pose cette question-là, tout simplement. C'est-à-dire que où sont les droits humains fondamentaux lorsqu'on se retrouve à devoir menacer des conférenciers, et à quel titre les menace-t-on? Ça veut dire que donc la loi du plus fort existe. Est-ce que cette méthode, par rapport à des personnes qui se prétendent au service du bien commun et de l'humanité, est-ce que ces méthodes sont, alors qu'elles sont complètement similaires à ce qu'on peut appeler par ailleurs du harcèlement, ce qu'on peut appeler par ailleurs, moi ça me fait penser aux méthodes de la pègre qui vient menacer comme ça, du racket, qui vient menacer comme ça des boîtes de nuit ou des bars ou des restaurants pour faire avancer leurs idées. Est-ce que la menace, c'est normal? Moi, sur le principe, je trouve pas ça normal. Donc ça, effectivement, à mes yeux, c'est inadmissible et c'est une faute.
Charles Maxence, est-ce que ça peut changer? Est-ce que l'avenir peut être plus lumineux?
Ouais, franchement, je pense que oui, sinon je ne serais pas là. Mais au sens où, par rapport aux années où j'ai pu travailler au Parlement européen aux côtés de Michel Rivasi comme assistant parlementaire, le Parlement européen, il fonctionne à la proportionnelle. Donc ça veut dire que toutes les écoles de pensée, toutes les façons de voir le monde se trouvent représentées dans la diversité des personnes. Il y a 700 députés là depuis les élections de juin 2024. Malheureusement, en fonction de son bord politique, on peut regretter qu'il y a 3 voire 4 groupes d'extrême droite politiquement présents au sein du Parlement européen aujourd'hui, mais c'est l'expression de la vox populi. Donc soit on va condamner le fait que les gens votent mal, et dans ce cas-là on ne prend pas en compte le vote des gens, soit on peut se préoccuper de pourquoi les gens votent pour des forces de cet ordre-là, et là effectivement on peut avancer ensemble. Mais pour en revenir à la culture du Parlement européen en tout cas, comme ça fonctionne à la proportionnelle, ben quand on est un groupe écolo par exemple, qu'on est chez les Verts et qu'on est 4e groupe politique, pour faire avancer ces idées, ça veut dire qu'il faut réussir à convaincre les autres de voter avec nous. Et donc pour avoir une majorité, l'essence elle est là. Donc le choc frontal de bloc, une approche identitaire comme ça, où on se fait plaisir à son nombril en étant dans une affirmation exacerbée de son identité ou de ses idées, ne fonctionne pas pour emporter la majorité. Ça génère de la violence. Quand je vois passer un slogan où il y a marqué « Qui sème la confusion récolte le fascisme », moi, ce que je vois, c'est que qui sème la haine récolte le fascisme. Et donc, en fait, peut-être que le fascisme de gauche existe aussi. Je pose cette question-là par rapport aux attitudes, aux choix, aux paroles, aux partis pris qui sont adoptés par les personnes qui expriment cette violence et qui ont notamment usé de la menace pour faire fuir des conférenciers. Je ne trouve pas ça normal dans la société, entre guillemets, civilisée, et surtout en prétendant qu'on est au service des droits humains.
Charles Maxence, durant votre conférence hier, il y a eu beaucoup de réactivité. Est-ce qu'il y a des temps forts qui vous ont marqué, des questions qui vous ont peut-être plus interpellé?
Il se trouve qu'effectivement, au niveau de l'intervention qu'on a eue hier, j'avais l'enjeu d'apporter des solutions. De mon point de vue, comme je raisonne plutôt sur la lucidité politique, il faut regarder les problèmes en face et avoir, autant que faire se peut, une vision à 360 sur la complexité des défis auxquels on est confronté. La manière dont il y a des menaces qu'on sous-estime qui sont présentes aussi. Mais être en pleine conscience par rapport à ces menaces et de voir qu'on est face à un éventail de menaces, qu'elles sont de différentes natures, mais que simultanément elles sont reliées entre elles. Donc on peut avoir une phase d'abattement, on peut avoir une phase de découragement en disant comment on peut faire. Mais en tout cas, moi, comme je suis plutôt de l'école de la psychologie positive et donc de la créativité et donc de l'intuition, j'estime que c'est quand on regarde les vrais problèmes en face qu'on trouve des vraies solutions. Sinon, on se trompe de solution dans ce qu'on va proposer. Parce qu'en fait, on se méprend, on est pris dans des croyances, ce que j'appelle par ailleurs, par exemple, l'envoûtement technologique. On va être pris dans des croyances qui font qu'on croit que, on pense que, mais ce n'est pas forcément le réel. Donc regardons d'abord le réel, appliquons une forme de phénoménologie politique en quelque sorte. Regardons d'abord le réel et par rapport à cette écoute du réel, c'est le réel qui est enseignant, qui nous apprend des choses. Là, on peut se poser, même si on se pose que 5 minutes, même si on se pose à 3, même si on se pose à 25. Et là, on se dit, bon, comment on peut faire? Et là, y a des idées qui vont sortir. Parce que si nous, individuellement, on n'a pas la réponse, quelqu'un autour de nous, un voisin, un collègue, un cousin, quelqu'un dans une ville d'à côté ou d'un pays d'à côté, va avoir une idée qui va venir. Et c'est la jonction des idées qui, du coup, nous remet en selle. Et là, on se dit, ah ouais, c'est ça qu'on va faire et go for it. Donc voilà, donc moi, je suis vraiment plutôt dans cette approche où n'ayons pas peur de regarder les défis en face parce que ça va nous ouvrir. C'est le fait de les regarder qui déclenche l'émergence d'une réponse qui est adaptée par rapport à l'ampleur du défi. Par exemple, la question, ça ne faisait pas partie des sujets abordés, hein, mais la question de la pollution chronique, pourrais-je dire, des océans par rapport au plastique, par rapport à la plastification et l'asphyxie graduelle et progressive des océans qui est en train de se dérouler, tant au niveau de la Méditerranée qu'au niveau du Pacifique. Ce n'est pas simplement des sacs en plastique qui tournent au milieu du Pacifique, c'est aussi du plastique dissous, invisible, qui épaissit l'eau et qui en plus se retrouve à intoxiquer les espèces vivantes, plancton inclus, et ça a un impact sur la fabrication de l'oxygène par le plancton, par exemple. C'est des études qui sont sorties il y a 3 ans qui montrent que le phytoplancton, ou en tout cas des espèces majoritaires au sein du phytoplancton perdent 30% de leur efficacité à fabriquer de l'oxygène à cause du plastique qui se comporte comme un perturbateur endocrinien qui vient se fixer sur le métabolisme du phytoplancton qui fabrique l'oxygène. Okay, on est sur ce niveau-là d'infiniment petit en termes de conséquences. Peut-être que c'est des bactéries qui vont nous aider en étant nos alliés pour gérer le défi du plastique. Et on va y arriver tous ensemble, les bactéries, les humains, et une conscience qui se préoccupe de l'impact de l'ensemble et du vivre ensemble et de notre épanouissement.